Les contes ne sont pas faits.
Les contes ?
Pour endormir les enfants.
D'Albatros.
Mais pour réveiller les adultes.
Les contes d'Albatros.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes. Je suis Albatros et comme tous les mardis midi, à l'heure où la sieste vous taraude, je m'en vais vous conter toutes les histoires, fables et légendes que j'ai pu glaner au fil de mes recherches, que j'ai pu glaner au fil de mes voyages. Je viens vous présenter aujourd'hui la troisième et dernière partie du monologue Novecento Pianiste, un texte d'Alessandro Baricco. L'histoire de Danny Boudman Tidilemon Novecento, ce pianiste né sur le bateau le Virginian et qui n'en est jamais descendu, et qui, à force d'y vivre et à force d'y jouer du piano, est devenu tout simplement le meilleur pianiste du monde. Alors, rapprochez-vous du transistor, éteignez votre téléphone, vous arriverez sûrement en retard au boulot, mais, comme dirait l'autre, au cul, le boulot. Car une histoire va commencer. Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Liverpool, Lisbonne, New Santiago York, du Chili, Rio de Janeiro, Rio de Antilles. Janeiro. Liverpool, New York, Cork, Liverpool, Lisbonne, Boston, Santiago du Chili, Liverpool, Rio de Janeiro, Hambourg, Boston, New York, Cork, Hambourg, Lisbonne, New York, Santiago du Chili, Floride, Rio de Janeiro, Boston, Floride, New York, Gênes, Lisbonne, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago du Chili, New York, Liverpool, océan. Plein milieu. C'est là, à ce moment-là, que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire de tableau, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste là, accroché pendant des années, et tout à coup, sans que rien ne se soit passé, j'ai bien dit rien, vlam, ils tombent. Ils sont là, accrochés à leurs clous, personne ne leur fait rien, et eux, à un moment donné, vlam, ils tombent, comme des pierres. Dans le silence le plus total, sans rien qui bouge autour, pas une mouche qui vole. Et eux, vlam, sans la moindre raison. Pourquoi à ce moment-là et pas à un autre? On ne sait pas. Vlam. Qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup, il décide qu'il n'en peut plus? Aurait-il donc une âme, lui aussi, le pauvre malheureux? Peut-il décider de quelque chose? Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, le tableau et lui. Ils hésitaient encore un peu, ils en discutaient tous les soirs, depuis des années. Et puis finalement, ils se sont décidés pour une date, une minute, une heure, une seconde, maintenant, vlam. Ou alors ils le savaient, depuis le début, tous les deux. Ils avaient tout combiné entre eux. Bon, t'oublie pas, dans 7 ans, je lâche tout. T'inquiète pas, pour moi c'est bon. Alors d'accord, pour le 13 mai, d'accord, vers 6h? Ah, j'aimerais mieux 6h moins le quart. D'accord, allez, bonne nuit, bonne nuit. 7 ans plus tard, 13 mai. 6h moins le quart, vlam, incompréhensible. C'est une de ces choses, il faut pas trop y penser. Sinon, tu sors de là, t'es fou. Quand le tableau se décroche. Quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus. Quand tu ouvres le journal et que tu lis que la guerre est déclarée. Quand tu vois un train et tu te dis « je me tire ». Quand tu te regardes dans la glace et tu comprends que tu es vieux. Quand Novecento, sur l'océan, en plein milieu, lève les yeux de son assiette et te dit « À New York, dans 3 jours, je descends. » J'en suis resté baba. Vlam ! Un tableau, tu peux pas lui poser de questions. Mais Novecento, si. Je le laissais tranquille un moment, puis je commençais à le tanner. Je voulais comprendre pourquoi. Il y avait forcément une raison. Un type ne reste pas 32 ans sur un bateau, et puis, tout à coup, un jour, il descend, comme si de rien n'était, sans même dire pourquoi à son meilleur ami, sans rien lui dire du tout. « Il y a quelque chose que je dois voir là-bas », il me fait. « Et c'est quoi ?» Il voulait pas me le dire. Ça peut se comprendre d'ailleurs, parce que, quand il le fit, ce fut pour me dire « la mer ». « La mer ?»« La mer ». Ben, voyons, t'aurais pu penser à tout sauf à ça. J'arrivais pas à le croire. Peut-être il voulait se payer ma tronche. Le coup du siècle. Ça fait 32 ans que tu la vois, la mère Novecento. d'ici. Moi, je veux la voir de là-bas. C'est pas la même chose. Bon Dieu, j'avais l'impression de parler avec un môme. Eh bien d'accord, t'attends qu'on soit arrivé au port, là tu te penches et tu la regardes bien, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Qui t'a raconté ça? C'était un dénommé Baster qui le lui avait raconté. Lynn Baster, un paysan. Un de ceux qui travaillent comme des mules pendant 40 ans et n'ont jamais rien vu d'autre que leur champ. Peut-être une ou deux fois la grande ville, à quelques lieues de là, les jours de foire. Sauf que ce paysan-là, la sécheresse lui avait tout pris. Sa femme était partie avec un prédicateur quelconque, et ses mômes, la fièvre les lui avait emportés, tous les deux. Le type naît sous une bonne étoile, quoi. Alors un jour, il avait pris ses affaires, et il s'était lancé à traverser toute l'Angleterre à pied, pour aller jusqu'à Londres. Mais comme les routes, c'était pas son fort, au lieu d'arriver à Londres, il s'est retrouvé dans un petit village, au milieu de nulle part. Un endroit où, si tu continuais à marcher, après deux virages, de l'autre côté de la colline, pour finir, tout à coup, tu voyais la mer. Lui, il ne l'avait jamais vue, la mer. Et ça l'avait foudroyé sur place. C'est ça qui l'avait sauvé, à l'en croire. Et il disait, c'est comme un hurlement géant, mais qui s'arrêterait jamais de crier. Et ce que ça crie, c'est « Bande de cocus, la vie, c'est quelque chose d'immense! Vous allez comprendre ça, oui ou non? Immense !» Il n'y avait jamais pensé avant, ce Lynn Baster. Sans blague, ça lui était jamais arrivé de penser une chose pareille. À tel point que, dans sa tête, ce fut comme une révolution. Peut-être que Novecento, c'était pareil. Peut-être que ça lui avait jamais traversé l'esprit, cette histoire-là. Que la vie, c'est quelque chose d'immense. Ah, il s'en était douté, peut-être, mais personne ne lui avait jamais crié aussi fort. Si bien que cette histoire de la mer et du reste, il se la fit raconter des milliers de fois par le dénommé Baster. Et il finit par décider que lui aussi, il devait essayer. Quand il se lança à m'expliquer la chose, il avait la tête du gars qui t'explique le fonctionnement du moteur à explosion. C'était scientifique. Je peux rester encore des années sur ce bateau sans que la mer me dise quoi que ce soit à moi. Alors que là, je descends, je vis sur la terre et de la terre pendant quelques années. Je deviens un type normal et puis un jour, je m'en vais. J'arrive sur la côte, n'importe laquelle. Je lève les yeux, je regarde la mer et elle sera là. Et je l'entendrai crier. Scientifique. La connerie la plus scientifique du siècle, ça me paraissait à moi. J'aurais pu lui dire, mais je l'ai pas dit. C'était pas si simple. Il faut dire que je l'aimais bien, Novecento. Et j'avais bien envie qu'un jour ou l'autre, il descende et qu'il joue pour les gens de la Terre. Et qu'il se marie avec une femme sympathique, qu'il ait des enfants, bref, toutes les choses de la vie. Qui n'est peut-être pas immense, mais bon, qui est belle, quand même, si t'as de la chance, un peu. Et si t'as envie. Bref, cette histoire, ça me semblait un vrai attrape-couillon, mais si ça pouvait aider Novecento à descendre, ça m'allait. Et je commençais même à penser que c'était une bonne chose, finalement. Et je lui dis que son raisonnement était correct. Et que j'étais content, vraiment. Et que j'allais lui offrir mon manteau en poil de chameau. Il aurait une sacrée allure là-dedans, quand il descendrait la passerelle, avec ce manteau en poil de chameau. Lui, de son côté, il était quand même un peu ému. « Mais toi, tu viendras me voir, hein, sur la terre. » Bon Dieu. Je t'avais une pierre là, dans la gorge, vraiment, comme une pierre. Ça me tuait de l'entendre parler comme ça. Je déteste les adieux et je me suis mis à rire du mieux que je pouvais. Assez mal d'ailleurs. Et à lui dire que bien sûr j'irai le voir et on ferait courir son chien dans les champs et sa femme nous mettrait une dinde au four. Je sais plus quelle connerie encore. Et lui, il riait et moi je riais aussi, mais à l'intérieur on savait bien tous les deux que la vérité était différente. Et que la vérité c'était que tout serait fini. Et qu'il n'y avait rien à y faire. Ça devait arriver et ça arrivait maintenant. Danny Boodman Tiddy Lemon Novecento allait descendre du Virginian dans le port de New York un jour de février. Après 32 années passées en mer, il allait descendre à terre pour voir la mer. fut à la troisième marche qu'il s'arrêta, brusquement.
« Qu'est-ce qu'il y a? T'as marché dans une merde ?»
fit Neil O'Connor, un Irlandais qui ne comprenait foutre rien à rien, mais que ça n'empêchait pas d'être de bonne humeur, toujours.
« Il a peut-être oublié quelque chose, j'ai dit. »«
Et quoi donc ?»«
Bah, est-ce que je sais ?»« Il a peut-être oublié pourquoi il descend. » »«
Dis pas de conneries. » Et pendant ce temps-là, Novecento, immobile, un pied sur la deuxième marche et un pied sur la troisième. Il resta comme ça une éternité. Il regardait devant lui, comme s'il cherchait quelque chose. Et il finit par faire une chose bizarre. Il enleva son chapeau, passa la main par-dessus la rampe et laissa tomber le chapeau. On aurait dit comme un oiseau fatigué ou une omelette bleue avec des ailes. Il fit 2-3 volutes dans les airs et tomba dans la mer. Il flottait. C'était un oiseau, évidemment, pas une omelette. Quand on a relevé les yeux vers la passerelle, ça a été pour voir Novecento, avec son manteau en poil de chameau, mon manteau en poil de chameau, qui remontait ses 2 marches, en tournant le dos au monde, avec un drôle de sourire sur le visage. En 2 pas, il avait disparu à l'intérieur du navire.
« T'as vu ? Le nouveau pianiste est arrivé »,
a dit Neil O'Connor. « C'est le plus grand, paraît-il », j'ai répondu. Je ne savais pas si j'étais triste ou bien heureux à en mourir. Ce qu'il avait vu, du haut de cette maudite troisième marche, il n'a pas voulu me le dire. Ce jour-là, et pendant les 2 traversées qu'on a faites encore après, Novecento resta un peu bizarre. Il parlait moins que d'habitude. Et il avait l'air très occupé par une histoire à lui, personnelle. Nous, on ne posait aucune question. Lui, il faisait comme si de rien n'était. On voyait qu'il n'était pas tout à fait normal, mais bon, on n'avait pas envie d'aller l'interroger. Les choses continuèrent ainsi pendant quelques mois. Puis un jour, Novecento entra dans ma cabine et, lentement, mais tout d'une traite, sans s'arrêter, me dit « Merci pour le manteau, il m'allait drôlement bien. Dommage. J'aurais eu une sacrée allure avec, mais ça va beaucoup mieux maintenant, c'est passé. Tu dois pas t'imaginer que je suis malheureux, je le serai plus jamais. » Quant à moi, j'étais même pas certain qu'il l'ait jamais été, malheureux. C'était pas une de ces personnes dont tu te demandes toujours « Est-ce qu'il est heureux, ce type-là » C'était Novecento, point. Il te faisait pas venir à l'esprit l'idée du bonheur ou de la souffrance. Il avait l'air au-dessus de tout. Il avait l'air intouchable. Lui et sa musique. Le reste, ça comptait pas. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux. Je ne le serai plus jamais. Ça m'a laissé baba, cette phrase. Il n'avait pas l'air du gars qui plaisante en disant ça. L'air de celui qui sait très bien où il va. Et qui y arrivera. C'était comme quand il s'asseyait au piano qui commençait à jouer. Aucune hésitation dans ses mains. Les touches semblaient les attendre depuis toujours, ces notes. Comme si elles avaient existé que pour ces notes-là, et uniquement pour celles-là. On avait l'impression qu'il inventait dans l'instant, mais ces notes-là, quelque part dans sa tête, elles étaient inscrites depuis toujours. Je sais maintenant que ce jour-là, Novecento avait décidé qu'il allait s'asseoir devant les touches blanches et noires de sa vie et commencer à jouer une musique absurde et géniale, compliquée mais superbe, la plus grande de toutes, et danser sur cette musique ce qu'il lui resterait d'années, et ne plus jamais être malheureux. Moi, je suis descendu du Virginian le 21 août 1933. J'y étais monté 6 années plus tôt, mais ça me paraissait une vie entière. Je ne suis pas descendu pour un jour ou pour une semaine, j'en suis descendu pour toujours. Avec mes papiers de débarquement, mes arriérés de paix, tout, en règle. J'en avais fini avec l'océan. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, cette vie-là. C'est une drôle de manière de faire coller les choses, mais ça fonctionnait. Sauf que je n'arrivais pas vraiment à penser que ça pouvait durer toujours. Si tu es marin, c'est différent. Ta place est sur la mer. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu crèves, pas de problème. Mais un type qui joue de la trompette... Si tu joues de la trompette, sur la mer, t'es un étranger. Et tu le seras toujours. Que tu rentres chez toi, tôt ou tard, c'est juste. Et tôt, c'est encore mieux, je me suis dit. Et tôt, c'est encore mieux, j'ai dit à Novecento. Et il a compris. On voyait bien qu'il avait aucune envie de me voir descendre cette passerelle. Et en plus, pour toujours,
mais jamais il me l'a dit. Il était comme ça. Le dernier soir, on était en train de jouer pour les habituels connards de première, et le moment de mon solo arriva. Je commençais donc à jouer, et après quelques notes... J'entends le piano qui s'en vient avec moi, tout bas, avec douceur, mais il jouait avec moi. On continua comme ça, tous les deux. Et moi, bon Dieu, je jouais du mieux que je pouvais. Pas tout à fait Louis Armstrong, mais vraiment je jouais bien. Avec Novecento derrière moi qui me suivait partout, comme lui seul savait le faire. Les autres nous ont laissé continuer un petit bout de temps, ma trompette et son piano, pour la dernière fois, à nous dire toutes les choses qu'on ne peut jamais se dire avec les mots. Autour de nous, les gens continuaient à danser. Ils s'étaient aperçus de rien. Ils ne pouvaient pas s'en apercevoir. Ils ne savaient rien de tout ça. Ils continuaient à danser, comme si de rien n'était. Peut-être qu'un type a juste dit à un autre « T'as vu celui qui a la trompette ? C'est rigolo. Il doit être saoul ou alors il a un grain. Regarde-le, celui à la trompette. » Il joue et pendant ce temps, il pleure. Ce qui s'est passé, après, une fois débarqué, c'est une autre histoire. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien si cette fichue guerre n'était pas venue se mettre en travers, ça aussi. Ça a tout compliqué. On ne savait plus où on en était. Il fallait un sacré cerveau pour s'y retrouver. Il fallait avoir des qualités que moi, je n'avais pas. Moi, je savais jouer de la trompette. C'est étonnant à quel point ça peut être inutile quand la guerre est là. Collé à tes basques, à pas vouloir te lâcher. Bref. Pour ce qui est du Virginian et de Novecento, je n'en ai plus entendu parler pendant des années. C'est pas que j'avais oublié. J'ai continué, toujours, à me souvenir de lui. Et je me demandais sans cesse, qu'est-ce qu'il ferait Novecento s'il était là? Qu'est-ce qu'il dirait? Au cul, la guerre, il dirait. Mais quand c'est moi qui le disais, ça faisait pas pareil. Ça allait tellement mal que, par moments, je fermais les yeux et je repartais là-bas, en troisième classe, à écouter les émigrants chanter de l'opéra et... Novecento jouait on ne sait quelle musique, ses mains, sa tête et l'océan autour. Par l'imagination, j'y allais, par les souvenirs, mais c'est tout ce qu'il te reste quelquefois pour sauver ta peau quand t'as plus rien. C'est un truc de pauvre, mais ça marche toujours. Bref, tout ça, c'était une histoire terminée, qui avait l'air vraiment terminée. Et puis un jour, je reçois une lettre écrite par Neil O'Connor, l'Irlandais qui arrêtait jamais de plaisanter. Mais cette fois, c'était une lettre sérieuse. Elle disait que le Virginian était rentré de la guerre tout déglingué. Il avait servi d'hôpital flottant et il était dans un tel état, à la fin, qu'ils avaient décidé de le couler. Ils avaient débarqué à Plymouth le peu d'équipage qu'il restait. Ils avaient bourré le bateau de dynamite et d'un jour à l'autre, ils l'emmèneraient au large pour s'en débarrasser. Boum ! On n'en parle plus. Après, il y avait un post-scriptum. Il disait « T'aurais pas 100 dollars, je te jure, je te les rendrai. » Et encore après, un autre post-scriptum, il disait « Novecento est pas descendu. » J'ai retourné cette lettre dans tous les sens pendant des jours. Puis j'ai pris le train qui s'en allait à Plymouth, je suis allé jusqu'au port, j'ai cherché le Virginian, je l'ai trouvé. J'ai donné un peu de fric au gardien qui était là, je suis monté sur le bateau, je l'ai parcouru d'un bout à l'autre, je suis descendu jusqu'à la salle des machines. Je me suis assis sur une caisse qui avait l'air d'être bourrée de dynamite. J'ai ôté mon chapeau. Je l'ai posé par terre. Je suis resté là, en silence, sans savoir quoi dire. Là, immobile, à le regarder. Lui, là, immobile, qui me regardait. Dynamite aussi sous ses fesses. Dynamite partout. Danny Boudman, Teddy Lemon Novecento. À croire qu'il le savait que j'allais venir. Comme il savait toujours les notes que t'allais jouer, et avec cette tête vieillie, mais d'une belle façon, sans fatigue. Pas une lumière sur le bateau, sauf celle qui filtrait de l'extérieur. Dieu sait comment elle était. La nuit, les mains blanches, la veste bien boutonnée, les souliers brillants. Il n'était pas descendu, lui. Dans la pénombre, on aurait dit un prince. Il n'était pas descendu. Il allait sauter avec le reste au milieu de la mer. Le grand final, avec tous les gens qui regardent au bout du quai et sur le rivage, le grand feu d'artifice. Adieu tout le monde, le rideau tombe, flammes, fumée et grande vague à la fin. Danny Boudman, Teddy Lehman, Novecento. Sur ce navire, englouti par l'obscurité, mon dernier souvenir de lui, c'est une voix, juste une voix, Adagio, qui parle. Toute cette ville, on n'en voyait pas la fin. Hep, la fin, s'il vous plaît, on voudrait voir la fin. Et ce bruit, cette maudite passerelle, c'était très beau tout ça. Moi, j'étais grand avec ce manteau. J'avais une sacrée allure, bien sûr. J'allais descendre, c'était garanti, pas de problème. Avec mon chapeau bleu, première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième... C'est pas ce que j'ai vu qui m'a arrêté. C'est ce que je n'ai pas vu. Tu peux comprendre ça, mon frère ? Ce que je n'ai pas vu. Je l'ai cherché, mais ça n'y était pas. Dans toute cette ville immense, il y avait tout sauf... Il y avait tout... Mais de fin, il n'y en avait pas. C'est ce que je n'ai pas vu, c'est où ça finissait, tout ça. La fin du monde. Imagine maintenant, un piano. Les touches ont un début, les touches ont une fin. Toi, tu sais qu'il y en a 88. Là-dessus, personne ne peut te rouler. Elles sont pas infinies, elles. Mais toi, t'es infini. Et sur ces touches-là, la musique que tu peux jouer, elle est infinie. Elles, elles sont 88. Toi, t'es infini. Voilà ce qui me plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Mais si tu... Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi... Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi se déroule un clavier de millions de touches, des millions et des milliards, des millions et des milliards de touches qui ne finissent jamais. C'est la vérité vraie qu'elles finissent jamais. Ce clavier-là, il est infini. Et si ce clavier, il est infini, alors sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. T'es pas assis sur le bon tabouret. Ce piano-là, c'est Dieu qui y joue. Nom d'un chien. Tu les as seulement vus, ces rues ? Rien qu'en rue, il y en avait des milliers. Comment vous faites là-bas pour en choisir une ? Pour choisir une femme, une maison, une terre qui soit la vôtre, un paysage à regarder, une manière de mourir. Tout ce monde-là, ce monde collé à toi, tu ne sais même pas où il finit, jusqu'où il y en a. Vous avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser, à toute cette énormité, rien que d'y penser, d'y vivre. Moi, j'y suis né sur ce bateau. Et le monde y passait, mais par 2000 personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, mais pas plus que ce qui pouvait tenir entre la proue et la poupe. Tu jouais ton bonheur sur un clavier qui n'était pas infini. C'est ça que j'ai appris, moi. La Terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un trop long voyage. Une femme trop belle, un parfum trop fort, une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Laissez-moi revenir en arrière, s'il vous plaît. Et maintenant, essaie de comprendre, mon frère, essaie de comprendre si tu peux, avec tout ce monde dans les yeux. Terrible, mais beau. Trop beau. Et la peur qui me ramenait en arrière. Le bateau, encore et toujours, un petit bateau. Ce monde dans les yeux, toutes les nuits à nouveau. Les fantômes, tu peux en mourir si tu les laisses faire. L'envie de descendre, la peur de le faire, à force tu deviens fou, fou. Il faut que tu fasses quelque chose, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par l'imaginer et après je l'ai fait. Chaque jour, pendant des années, 12 années, des milliards d'instants, un geste invisible et très lent. Moi qui n'avais pas été capable de descendre de ce bateau, pour me sauver moi-même, je suis descendu de ma vie. Marche après marche. Et chaque marche était un désir. À chaque pas, un désir auquel je disais adieu. Je suis pas fou, mon frère. On n'est pas fou quand on trouve un système qui nous sauve. On est rusé comme l'animal qui a faim. La folie, ça n'a rien à voir. C'est le génie, ça. La géométrie. La perfection. Les désirs déchiraient mon âme. J'aurais pu les vivre, mais j'y suis pas arrivé. Alors, je les ai ensorcelés. Et je les ai laissés, l'un après l'autre, derrière moi. De la géométrie, un travail parfait. Toutes les femmes du monde, je les ai ensorcelées en jouant une nuit entière pour une femme. Une, à la peau transparente. Des mains sans un seul bijou. Des jambes fines. Elle balançait sa tête au son de ma musique. Sans sourire, sans baisser les yeux, jamais. Une nuit entière. Et quand elle s'est levée, ce n'est pas elle qui est sortie de ma vie. C'était toutes les femmes du monde. Le père que je ne serai jamais, je l'ai ensorcelé en regardant un enfant mourir pendant des jours entiers, assis auprès de lui, sans rien perdre de ce spectacle effroyablement beau. Je voulais être la dernière vision qu'il aurait au monde. Et quand il s'en est allé, en me regardant dans les yeux, ce n'est pas lui qui est parti, mais tous les enfants que je n'ai jamais eus. La terre qui était la mienne, quelque part dans le monde, je l'ai ensorcelée en écoutant chanter un homme qui venait du nord. Et en l'écoutant, tu voyais tout. Tu voyais la vallée, les montagnes autour, la rivière qui descendait doucement, la neige, l'hiver, les loups dans la nuit. Et quand cet homme a eu fini de chanter, alors ma terre, où qu'elle se trouve, a été finie à jamais. Les amis que j'ai désiré avoir, je les ai ensorcelés en jouant pour toi et avec toi ce soir-là. Et dans l'expression de ton visage, dans tes yeux, je les ai vus tous, mes amis bien-aimés. Quand tu es parti, ils s'en sont allés avec moi. J'ai dit adieu à l'émerveillement quand j'ai vu les icebergs géants de la mer du Nord s'écrouler, vaincus par la chaleur. J'ai dit adieu au miracle quand j'ai vu rire ces hommes que la guerre avait démolis. J'ai dit adieu à la colère quand j'ai vu ce bateau qu'on bourrait de dynamite. J'ai dit adieu à la musique, à ma musique, le jour où je suis arrivé à la jouer tout entière, dans une seule note, d'un seul instant. Et j'ai dit adieu à la joie, en l'ensorcelant, elle aussi, quand j'étais vu entrer ici. C'est pas de la folie, mon frère. C'est de la géométrie. C'est un travail d'orfèvre. J'ai désarmé le malheur. J'ai désenfilé ma vie de tous ses désirs. Si tu pouvais remonter ma route, tu les y trouverais, les uns après les autres, ensorcelés, immobiles, arrêtés là pour toujours. Jalonnant le parcours de cet étrange voyage que je n'ai jamais raconté à personne, sauf à toi. Je la vois déjà, la scène, à l'arrivée là-haut, avec le gars qui cherche mon nom sur la liste et qui ne le trouve pas. Comment vous avez dit que vous vous appeliez ? Novecento. Nosjinski, Notarbolo, Novalis, Novak. C'est parce que je suis né sur un bateau. Plaît-il ? Je suis né sur un bateau et j'y suis mort d'ailleurs. C'est peut-être marqué quelque part ? Naufrage ? Non, sauter en l'air. 6 quintaux et demi de dynamite. Boum ! Ah, et tout va bien maintenant. Ah oui, oui, très bien. Enfin, il y a juste cette histoire de bras. Un bras qui a disparu. Mais on m'a assuré que... Il vous manque un bras ? Oui, c'est dans l'explosion. Ah, on doit en avoir un ou deux par là. C'est lequel ? Le gauche. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai bien peur qu'on ait que 2 droits. Vous savez, 2 bras droits ? Eh bien, ça vous ferait problème en cas... Si quoi ? Je veux dire, si vous preniez un bras droit à la place du bras gauche ? Oui. Ben non. Tout compte fait, vaut mieux un bras droit que rien du tout. C'est ce que je pense aussi. Attendez un instant, je vais vous le chercher. Si jamais je repassais dans quelques jours et que vous en ayez reçu un gauche... Ah zut, j'ai un blanc et un noir. Ah non, non, la même teinte. C'est pas que j'ai quelque chose contre les nègres, hein, c'est juste que... La poisse. Toute une éternité là-haut, au paradis. Avec 2 mains droites.
Allez, maintenant on va faire un beau signe de croix.
Tu sais jamais laquelle utiliser. Toute une éternité, des millions d'années à passer pour un débile. L'enfer. Au paradis. Pas de quoi rire. Bien sûr, mais quand même. T'imagines cette musique? Avec ses mains là, ses deux mains droites. Deux. Évidemment, à condition qu'il y ait un piano.
C'est de la dynamite que tu as sous les fesses, mon frère. Lève-toi de là et va-t'en. C'est fini. C'est fini pour de bon, cette fois.